Bien-aimé, si nous aimons Jésus, acclamons très fort pour lui. Oui, ce soir, nous sommes là pour écouter Jésus. Nous sommes là pour écouter notre Dieu. C'est pourquoi je nous invite à nous lever pour un moment de prière. Bien-aimés frères et sœurs, adore Dieu pour ce programme. Adore Dieu pour sa fidélité et son amour incomparable. Notre Dieu nous dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est parmi nous. Adore-le pour sa présence au milieu de nous. Dis-lui merci d'avoir rendu ce jour et ce moment possible. Dis-lui merci pour tout ce qu'il nous a enseigné et pour tout ce qu'il a opéré jusqu'alors dans nos vies, pour toutes les bénédictions qu'il a déversées en nous depuis que ce programme a commencé. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a prévu pour nous ce soir. Demande à Dieu de te disposer entièrement à l'écouter ce soir. Demande-lui d'ôter du milieu de nous tout obstacle à la manifestation de sa gloire. Dis à Dieu pourquoi tu es là ce soir et quelles sont tes attentes. Dispose ton cœur, ouvre ton cœur. Ne te laisse distraire par rien. Prie pour ta transformation afin de ne pas rentrer comme tu es venu. Demande à Dieu la force de rester focalisé sur la parole qui va être dite, la parole qui va sortir, et non sur toute autre chose. Père tendre, merveilleux Seigneur, nous te célébrons, nous te rendons encore grâce pour cette soirée. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci d'être le véritable maître des lieux. Merci de parler toi-même à nos cœurs. Père, nous refusons que ce moment soit un rituel, mais un moment pendant lequel tu vas faire des choses nouvelles dans nos vies. Un moment pendant lequel tu vas te glorifier. Nous venons à toi, Seigneur, comme des bouteilles vides qui n'attendent qu'à être remplies par toi. Nous voulons voir la manifestation de ta gloire. Merci pour les transformations que tu vas opérer en ce lieu. Merci, ô notre Dieu. Nous prenons autorité, Yahvé, sur toutes les forces d'opposition qui voudraient nous empêcher de recevoir de toi. Nous prenons autorité sur tout dévoreur de messages en ce lieu qui empêcherait à quiconque de recevoir ce que tu as prévu pour lui. Nous vouons à l'échec tous leurs projets au nom de Jésus. Nous déclarons que c'est toi qui es le maître en ce lieu. Sature ce lieu, ô Père, de ton Esprit Saint. Sature ce lieu de ton esprit d'amour, afin que chacun qui partira d'ici soit plein d'amour pour toi et pour son prochain. Remplis ce lieu de ta gloire maintenant, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Bien-aimé, une fois de plus, bonsoir. Alors, après que nous ayons pris conscience de nos échecs et de leurs causes dans le premier module, n'est-ce pas, qui était intitulé « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Il n'était pas question que nous demeurons là où nous sommes tombés. Quand on tombe, on doit se relever, non? N'est-ce pas? Très bien. C'est pourquoi nous avons commencé depuis quelques jours à voir comment poser de nouvelles fondations. C'est-à-dire le module 2 qui dit « Pose de nouvelles fondations ». Ainsi, nous avons appris qu'il fallait d'abord laisser Jésus régner dans nos vies. Nous avons vu qu'il était question que nous changeons de mentalité, que nous écoutons Dieu, que nous pardonnons absolument à notre prochain. Mais alors, quelle devrait être notre motivation? Tout ce qu'on a dit, c'est bien, mais quelque chose doit nous motiver. On ne peut pas se lever et dire qu'on va pardonner au prochain. Il y a quelque chose qui nous motive. Nous avons pensé que c'est l'amour. C'est pourquoi le thème de ce soir, on a dit, sois motivé par l'amour. Il est question que nous soyons motivés par l'amour. Alors, pour commencer, nous allons essayer de définir l'amour, n'est-ce pas, comme un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. C'est la plus belle expression des sentiments humains ou divins. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous sommes capables de faire de grands sacrifices pour la personne, n'est-ce pas? Nous faisons tout pour lui rendre satisfaction. Nous faisons tout pour rendre la personne heureuse, pour ne pas la décevoir. N'est-ce pas? On dit que l'amour rend aveugle. Quand on aime, on a l'impression qu'on a même perdu la tête. C'est ça notre façon d'aimer. L'amour peut nous amener même au-delà des limites, de nos limites et de nos frontières. Nous allons prendre le cas simple des différents mariages que nous avons, n'est-ce pas? Lorsqu'un enfant quitte la Mifi pour aller dans les Bamboutos, il a déjà traversé les frontières, non? Hein? Lorsque vous prenez, vous êtes noir, vous allez épouser un blanc, vous allez traverser les frontières, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que l'amour peut faire. Cependant, il n'en demeure pas moins que aimer reste encore le plus grand problème, le plus grand challenge auquel l'humanité fait face de nos jours, car notre amour demeure jusqu'ici imparfait. Oui, nous éprouvons encore beaucoup de peine à aimer véritablement. Notre amour reste encore sous condition. Nous aimons en émettant des réserves, n'est-ce pas? On dit non, je dois aimer, mais à condition que. On se pose la question de savoir si on peut entreprendre quelque chose de bien sans avoir d'amour au préalable. Même votre travail. Un enfant qui n'aime pas laver les assiettes a de la peine à bien le faire, n'est-ce pas? Oui, même celui qui va dans son bureau. S'il n'y a pas d'amour dans son cœur, il va faire le travail là pour le salaire qu'il a, n'est-ce pas? Il dit, ah, comme j'ai aussi faim, il faut que j'aille faire le travail là. Bien, nous allons tour à tour parler de l'amour insondable de Dieu, puis de l'amour du prochain comme un grand défi à relever. Et enfin, nous allons voir l'amour comme socle de la nouvelle vie en Jésus. Nous commençons donc par l'amour insondable de Dieu. C'est-à-dire, comment est-ce que Dieu aime? Nous devons commencer par là. Bien-aimés dans le Seigneur, cette portion d'Écriture que nous allons lire tout à l'heure, je vais vous donner, c'est 1 Jean 4, 7 à 11. Je vous prie donc d'ouvrir nos Bibles. Nous allons lire la personne qui trouve. 1 Jean 4, versets 7 à 11. Oui.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, afin que nous nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils, comme victime et serviteur. Aimé, si Dieu nous a ainsi aimé, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
Amen. Voilà. portion de l'Écriture dont nous donne déjà de comprendre que Dieu lui-même est amour. Donc quand on parle de Dieu, il s'agit de l'amour en personne. Et que l'amour vient de lui. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si nous aimons, c'est que nous sommes de Dieu, ça c'est clair. De plus, comment est-ce que Dieu a manifesté cet amour envers nous? Quand nous prenons le verset 9 du texte que nous venons de lire, il nous dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Parce qu'il nous aime, nous vivons par lui. C'est-à-dire que si nous-mêmes nous voulons aimer quelqu'un, la personne doit vivre par nous, non? N'est-ce pas? Quand nous aimons nos enfants, ils vivent par nous, non? N'est-ce pas? Si nous ne leur donnons pas l'argent des beignets, est-ce qu'ils peuvent vivre? Est-ce qu'ils auront les beignets? Donc c'est un peu comme cela. Alors ce verset 9 donc, nous dit clairement que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et nous connaissons tous le verset 16 de Jean 3 qui nous dit que c'est afin que nous ayons la vie éternelle. Afin que nous ayons la vie éternelle, c'est-à-dire que nous soyons sauvés. En effet, Jésus-Christ est venu comme une victime expiatoire, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour nous. Nous pouvons voir cela dans 1 Jean 3, verset 16. Il est venu détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Alors, quand on dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable, nous connaissons un peu comment le diable opère. Nous voyons un peu cette image, n'est-ce pas, en octobre, lorsque nous faisons la soirée de prière de délivrance. Vous voyez un peu ce que le diable peut faire dans les vies de nos enfants, n'est-ce pas, et même des adultes. N'allons pas si loin. Nous avons des enfants qui sont dans la drogue, par-ci, par-là. Il y en a qui volent, il y en a qui... Ils sont manipulés, n'est-ce pas, par le diable, par l'ennemi. Et lorsque la parole nous dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable, une maman voit son enfant qui a été délivré. N'est-ce pas? Une maman peut se souvenir de son enfant qui est délivré de toutes ces choses et peut rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Alors, il est venu ôter les péchés, lui en qui il n'y a point de péché. Ça, 1 Jean 3, verset 5 nous le dit. Quand on dit qu'il est venu ôter les péchés, nous voyons comment nous vivons. Attendez, si nous sautons aujourd'hui sans péché, nous allons sauter demain ou après-demain. Quand tu dis que tu vas au travail, le travail commence à 7h30, tu arrives à 7h35, tu arrives à pécher, oui ou non? Que ce soit volontaire ou involontaire, nous péchons, n'est-ce pas? Et lui, il est venu ôter nos péchés. Quel grand amour pour nous! Dieu nous a également témoigné son amour en nous appelant ses enfants. Nous pouvons le voir dans 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et Jean 1, 12 également nous le dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné... Elle, la parole, n'est-ce pas, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est un privilège. Combien de fois avons-nous eu la peine à appeler l'enfant d'autrui notre? Est-ce qu'il nous arrive d'appeler l'enfant d'autrui notre enfant? Je vois une petite fille qui passe. Je ne peux pas dire, ma fille, donne-moi ceci. Fille, parce que si je mets ma... N'est-ce pas? J'ai vraiment de la peine à mettre ma. Je dis fille. Et ça se répercute dans la vie de ses enfants. Parce que ce même enfant, quand tu vas lui donner quelque chose, sa maman va lui dire, dis merci à maman. Il va regarder sa maman et dire que comment? À maman, c'est pas possible. N'est-ce pas? nous avons semé cette discorde au milieu des enfants de Dieu. L'enfant a de la peine à dire à une maman en route, merci maman. La mère, c'est le raccourci, n'est-ce pas? Et ça a pris tout le monde. La mère, parce qu'on ne peut pas dire maman. Parce que maman a l'air d'être plus affectueux. On dit non, pourquoi cette affection? C'est nous-mêmes qui avons créé cela. L'amour de Dieu est un amour pur, qui n'attend rien en retour. Qui veut le bonheur de l'autre avant le sien? Jean 3, 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quelqu'un parmi nous peut-il livrer son enfant en rançon pour un autre? Est-ce que c'est possible? Au nom de l'amour, tu dis que non, comme j'ai l'amour là, tu vas livrer ton enfant. Pire encore, pour un inconnu ou pour un ennemi, Dieu veut nous convier à un sacrifice parfait. Regardons de quel amour Dieu nous a aimés. Il nous accepte tel que nous sommes. Il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Nous pouvons voir cela dans Matthieu 5, verset 45. Il arrose le champ du bon comme celui du méchant. Quand tu as ton champ et que tu as les problèmes avec ta voisine, c'est elle qui a tort. Est-ce que quand Dieu donne la pluie, il dit que je ne vais pas donner pour elle parce qu'elle t'a cherché les problèmes? Est-ce que c'est comme ça? Dieu voudrait nous enseigner ce soir. Généralement, quand nous voulons rendre service, nous nous rassurons que c'est bien à quelqu'un qu'on connaît ou qu'on aime d'avance qu'on va le faire. Même à l'église, qu'est-ce qui se passe le dimanche matin? Pourquoi? Voilà tout un mois de jeûne et de prière. Mais lorsque je viens, je m'assois. Quelqu'un vient après moi et veut passer. Je commence à le regarder de la tête aux pieds. Si sa tête ne me dit rien, j'ai envie de lui dire, assois-toi plutôt à côté. C'est ce que nous faisons, non? Nous le faisons ici. Le Seigneur est merveilleux, il voudrait que nous changions d'attitude. Dieu nous interpelle. Nous savons fabriquer un homme. Notre Dieu est parfait et tout ce qu'il fait est parfait. N'est-ce pas? C'est bien dommage. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, 4 à 6 que si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, quelle récompense méritons-nous? La différence entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu, c'est qu'il aime aussi quelqu'un qui ne connaît pas. N'est-ce pas? Oui. Pourtant, l'amour de Dieu pour nous est un amour inconditionnel, un amour parfait, qualifié d'agape. C'est-à-dire qu'il ne se lasse pas de donner, de faire du bien. Un amour riche en patience, en bonté, lent à la colère. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, que « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, nous voyons que Dieu nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Il nous a aimés sans condition. Parce que s'il fallait qu'il ouvre un peu les yeux sur notre façon d'aimer, il ne nous aimerait jamais. Bien-aimés frères et sœurs, apprenons par là à rendre service pour rien, à faire du bien pour rien. Que l'enseignant puisse expliquer une notion à l'élève sans la voyer, n'est-ce pas, au cours de répétition. N'est-ce pas, il y a les enseignants ici. Lorsque l'enfant pose la question en classe, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas aller, il faut demander ça au cours de répétition. N'est-ce pas? Un enfant ne peut pas reconnaître son enseignant dans la cour et lui poser un problème. Il voit que non, c'est compliqué de lui rendre ce service pour rien. C'est au cours de répétition que ça se gère. Nous avons nos enfants au quartier. Lorsque maman rentre, peut-être, je ne sais pas, d'un voyage ou alors du marché, elle a son sac. C'est terrible. Ça fait mal. Cet enfant voit la maman court prendre le sac et lui dit, s'arrête et lui dit, la mère, la motivation. La mère, la motivation. C'est-à-dire que cet amour-là n'existe pas dans son cœur. Et ça fait mal. On a l'administrateur. Il est dans son bureau parce qu'il doit nous signer les papiers. Mais lorsque viennent les papiers, il demande à l'usager le pourboire. Il veut encore un salaire sur le salaire qu'il a. Et quand vous allez rencontrer l'enfant de Dieu dans cette posture, il va vous dire que c'est le système. Où est l'amour de Dieu dans tout ça? Donc il faut que je te connaisse pour signer ton papier, alors que j'ai un salaire pour ça. Je vais vous conter un petit témoignage que j'ai eu la semaine dernière. Et j'allais au travail, je suis arrivée. Comme les routes sont barrées partout, quand vous sortez, vous ne savez pas à quel niveau votre voiture ou votre moto va s'arrêter. J'arrive donc presque déjà au niveau de mon lieu de service. La route est barrée. Je descends donc, je prends mon sac. J'essaie de chercher, je vois une route, je me dis bon, je vois les pieds des gens, c'est sûr que c'est par là que les gens passent. Une maman qui venait derrière moi aussi s'est mise à me suivre. Ah, quand on arrive devant, il n'y a que la rigole, il n'y a pas de pont sur la rigole. J'ai essayé de retrousser ma jupe et puis j'ai traversé. Et dès que j'ai traversé, l'esprit me dit, il y a une personne derrière toi. Je me retourne donc, je vois la maman qui était en train de réfléchir que là où je suis arrivée, faut-il rentrer, faut-il continuer, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je lui ai tendu la main, elle a manifesté sa joie par un large sourire. Sa joie était vraiment parfaite et sa façon de faire a été telle que quand je l'ai fait traverser, Je lui ai dit que bon, je m'en vais. Elle était contente, elle m'a dit que bon, moi je vais continuer comme ça. C'est-à-dire, elle a créé le contact parce que la joie était grande. Et au moment où j'allais dans mon bureau, j'allais avec beaucoup de joie. Pourquoi est-ce que je fais ce petit témoignage? Pour dire que quand vous faites du bien, c'est d'abord vous qui êtes content. J'ai passé au moins 30 minutes avec le sourire à revoir, n'est-ce pas, cette scène. S'il fallait recommencer 50 fois, 1 million de fois toute la vie, je le ferais. Bien, 1 Jean 4, 11 nous dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et le verset 12 dit aussi que, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous allons voir l'amour du prochain. C'est un grand défi. Comme un grand défi. Il est question de voir comment nous devons aimer notre prochain. De nos jours, une chose qui nous semble très difficile, c'est d'aimer notre prochain, lui faire confiance. Pire encore, si jamais il nous a persécutés, ça devient plus compliqué. Nous préférons vivre dans la suspicion, dans la peur, dans le manque de confiance. Nous préférons nous rétracter sur nous-mêmes. On dit qu'à l'église, c'est même très grave. Tu appelles quelqu'un frère et c'est lui qui te fait des coups bas. Il abuse de toi. Il peut vivre dans ta maison sans payer le loyer. C'est vrai? Hey! Il peut emprunter ton argent sans jamais te le rendre. Qu'est-ce qu'on a dit l'autre jour? Qu'il faut restituer. Heureusement que la parole de Dieu est là pour nous ramener à des meilleurs sentiments. C'est encore lui qui va faire des avances à ton conjoint sans se gêner. N'est-ce pas? C'est toujours dans l'église, non? Et c'est toujours Dieu qu'on sait, non? Gloire à Jésus. Il est dans une secte pernicieuse. Il ne se cache même pas. Il est tranquille. Et on te dit de lui faire confiance. C'est ça le comble, n'est-ce pas? On te dit de lui faire confiance. Quelle aberration! Humainement parlant, est-ce que c'est possible? C'est très compliqué, je pense. Sur le plan humain, n'est-ce pas? C'est très compliqué. Mais la parole de Dieu est formelle là-dessus. Si tu es enfant de Dieu, tu dois t'y conformer. Car il est écrit dans Matthieu 5, 44, 45, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le verset 42 de Matthieu 5 dit, « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Alors Luc 6, 35 de conclure en disant, « Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Nous verrons ici que Jésus-Christ est ce modèle d'amour qui ne demande qu'à être imité, n'est-ce pas? Tel qu'il nous dit, c'est comme cela que nous devons aimer notre prochain. Maintenant que nous savons comment aimer le prochain, un grand défi reste à relever. Il est question que nous ayons chacun un cœur régénéré. Pourquoi? Quand on te dit d'aimer ton ennemi, est-ce que par ta force, tu peux l'aimer? Quand tu penses même seulement que tu vas l'aimer, tu commences à avoir la nausée, non? Tu commences à te demander que, mais, que ça a commencé comment? Il est donc question que nous ayons chacun un cœur régénéré, un cœur transformé, un cœur travaillé, labouré par Dieu lui-même. Pour cela, nous devons prier pour que Dieu ôte de nos cœurs tout ressentiment qui peut se dresser en obstacle, nous empêchant d'avoir les pensées de Jésus, nous empêchant de marcher tel que la parole nous recommande. Ôter tout ressentiment qui nous aurait paralysé des années durant. Il n'y a que Dieu pour le faire, n'est-ce pas? Notre volonté seule ne suffit pas. Dieu peut le faire, il est capable, c'est un Dieu tout-puissant. Ces obstacles peuvent être la colère. Ça peut être la colère. Tu es fâché contre quelqu'un et on te dit de le bénir. C'est bien bizarre, non? La déception. La déception. Quelqu'un t'a déçu. On va pas se mettre à citer les types de déceptions. Il y en a. C'est qu'on va passer toute la nuit ici. Et on te dit non, pardonne, frère. Frère, il faut pardonner. La haine, le désir de vengeance, la rancune. Pendant que tu as son macabre, tu dis, je vais te traiter. On te dit, pardonne, frère. Même le simple fait de ne pas appartenir à la même classe sociale ou à la même chorale, n'est-ce pas? Nous sommes dans des chorales différentes. L'ennemi commence à nous donner de voir comme si appartenir à deux chorales différentes signifie que nous sommes des ennemis. Et ça se répercute dans notre façon de nous comporter. Nous appartenons à des groupes différents. L'un dit, moi je suis ancien, non, là ce sont les diacres, non, oh, c'est ça. L'orgueil, n'est-ce pas? C'est ça l'orgueil dans l'église. L'ingratitude. On est incapable de reconnaître le bien de l'autre, la méchanceté. On va te demander si la parole de Dieu, là, c'est le laxisme. que c'est devenu quoi? Quelqu'un qui fait comme ça, tu dis qu'il faut pardonner, il faut aimer, il faut prier pour celui qui te déteste, il faut. On te demande si la parole de Dieu là c'est pour endormir le chrétien. Mon frère, ma soeur, non. Crois seulement. La parole de Dieu c'est oui, c'est amen. N'est-ce pas? Nous avons vu hier l'orateur qui a dit que Pierre a dit sur ta parole, je vais jeter mon filet. Père, aimer comme tu veux là est compliqué, mais sur ta parole, je vais aimer. Amen. Ouvrons nos cœurs à l'amour qui est l'accomplissement de la loi. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, Romains 13, 8 nous dit, celui qui aime les autres accomplit la loi. Bien plus, choisir le chemin de la haine, c'est choisir le chemin de la mort. Selon 1 Jean 3, 15 à 17, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui-même. Nous sommes d'accord. Le meurtrier, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est la mort. Il est question. Il est donc question, frères et sœurs, ici, d'aimer Dieu de tout son cœur, de faire comme il nous recommande. C'est ainsi que nous allons aimer notre prochain. Beaucoup parmi nous trouvent des prétextes pour avoir la haine envers un ami, envers un frère, un parent, un voisin, un collègue, un camarade, etc. Aujourd'hui, Dieu ne te donne pas du tout raison. Parce qu'il nous dit dans 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. N'est-ce pas? Si tu aimes, tu ne peux pas avoir peur d'aimer quelqu'un sous prétexte qu'il a mal fait. Quand tu as l'amour en toi, nous sommes d'accord? Lorsque tu as l'amour en toi, l'amour parfait dont Dieu parle, le péché de l'autre ne peut pas être un obstacle à l'amour pour lui. Oui, il dit que l'amour suppose, pardon, la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si tu crains encore d'aimer quelqu'un parce qu'il a fait mal, c'est que l'amour n'est pas encore parfait en toi. Il est donc question pour toi aujourd'hui de renoncer, de renouer avec quiconque tu n'étais pas en de bons termes. Cela nous amène donc à dire que le pardon dont on a parlé hier est une condition stricte à l'amour. On ne peut pas aimer sans pardonner, n'est-ce pas? On doit commencer par pardonner. On va manifester l'amour par le pardon. Nous allons passer à la troisième partie, l'amour comme socle de la nouvelle vie en Jésus. Alors, pour dire que si nous sommes une nouvelle créature, n'est-ce pas, notre façon d'aimer doit changer parce que toute chose est devenue nouvelle en nous. Donc même notre façon d'aimer va changer. Alors nous venons de parler donc de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Il s'avère que le péché, le mal, n'est-ce pas, est venu aveugler, est venu éteindre l'amour. Si nous prenons Matthieu 24, verset 12, il dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. » Plus il y a le péché, moins on aime. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous constatons. Or, nous sommes nombreux à dire que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes des enfants de Dieu, au point de persévérer même dans la capitale spirituelle, non? Ça veut dire que nous avons un niveau très... Notre relation avec Dieu est tellement étroite, n'est-ce pas? Ça, c'est une très bonne chose. Mais Dieu, dans son amour et sa grâce, nous donne de comprendre que si nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas d'amour. Et que nous n'avons pas d'amour, nous ne sommes rien. Et tout ce que nous avons ne nous sert à rien. et nous ne pouvons jamais atteindre notre objectif pour la vie. Je nous invite à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 13, les 8 premiers versets. Si quelqu'un a trouvé, qu'il nous livre la lecture.
Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un terrain qui résonne ou une cervelle pour gentil. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi du sable en sortant les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis bien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne semble point d'orgueil, il ne te fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne suit point, il ne soupçonne point le mal.
Lorsque nous lisons cette portion d'écriture sur l'amour, nous comprenons que quel que soit ce que nous faisons, si ce n'est pas motivé par l'amour, ce n'est que du bruit inutile, n'est-ce pas? Ça ne nous sert à rien. Je voudrais que quelqu'un se rappelle de la dernière fois qu'il a manifesté l'amour et qu'il voit véritablement la motivation, le bien qu'il a fait, la motivation, si c'était motivé par l'amour. Bien, lorsque nous prenons à partir du verset 4, nous voyons les caractéristiques de l'amour. On dit que l'amour est patiente, donc elle n'est pas pressée, n'est-ce pas? Avec l'amour, on prend du temps avant de réagir, sous peine de faire du mal à l'autre. Pleine de bonté. L'amour n'est point envieux, ne se vante point, ne semble point d'orgueil. Nous voyons donc que lorsque nous manifestons de tels comportements, c'est un manque d'amour, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous dit que vous êtes orgueilleux, ça veut simplement dire que vous manquez d'amour dans vos cœurs. La parole de Dieu, c'est oui, c'est amen. Elle ne fait rien de malhonnête. Est-ce que tu peux aimer quelqu'un et dire que tu uses de malhonnêteté envers la personne? Elle ne cherche, là c'est la charité ou l'amour, hein, vous m'excusez, parce que là elle a parlé d'amour, et en d'autres versions c'est la charité. Donc quand je dis il ou elle, vous m'excusez. Ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Quand on aime, on ne court pas à soupçonner quelqu'un. On a toujours envie de croire que non, c'est sûr que c'est une erreur, jusqu'à ce que la vérité s'ensuive. Mais quand on n'a pas d'amour, dès le premier abord, on veut déjà lyncher l'autre. Ne se réjouis point de l'injustice. Oui. Quand on aime, on ne peut pas être fier de voir le mal, non? Se réjouit de la vérité. Là où il y a la vérité, celui qui aime est content. L'amour ne périt jamais. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Nous allons réaliser que l'amour effectivement ne périt jamais parce que lorsque vous aimez quelqu'un, franchement, et que la personne vient à vous faire du mal, vous pouvez rester là à bouder, à faire tout ce que vous faites. Mais le jour que la personne fait un premier pas, vous dormez tellement bien. C'est une manifestation de l'amour. C'est parce que vous n'aviez pas le courage et l'orgueil vous empêchait quelque part, mais vis-à-vis de cette personne, vous réalisez cet amour par votre façon de vous comporter. Bien. Nous comprenons donc que si nous sommes nés de nouveau, notre façon d'aimer doit changer. Nous sommes d'accord? Notre façon d'amour doit changer. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut nous exhorter dans Romains 12, 2 en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés, pour conclure, nous allons dire qu'un disciple authentique de Jésus-Christ se reconnaît par sa façon d'aimer. Quel que soit ce par quoi il passe, pendant les bons ou les mauvais moments, il doit aimer Dieu et aimer son prochain et surtout s'aimer lui-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, non? Attends, quand tu bois, tu es sous, tu tombes dans le caniveau, est-ce que tu t'aimes? Tu détruis ton corps toi-même. N'est-ce pas? Oui, ça c'est un petit exemple. Oui, bien-aimé, oser recommencer veut aussi dire changer sa façon d'aimer. Seul l'Esprit de Dieu qui habite en toi peut motiver ton amour. Puisse le Saint-Esprit te motiver à aimer comme Dieu. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé, veuillez mettre sur vos pieds. Nous allons une fois de plus prier. Si tu as écouté la voix de l'Éternel, ton Dieu, il est question pour toi de savoir que lorsque tu aimes, tu es en train d'accomplir la loi. Dis donc merci à Dieu pour sa parole que tu viens d'entendre. Dis merci à Dieu de sceller cette parole dans ton cœur et t'aider à la mettre en pratique. Dis merci à Dieu pour le changement qu'il a déjà opéré dans ta vie depuis que tu as commencé à écouter sa parole ce soir. Et pour le changement qu'il va encore opérer au travers de cet enseignement. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as fermé ton cœur à l'amour, sous quelque prétexte que ce soit, et que tu as même refusé de pardonner à quiconque t'a demandé pardon. Prie Dieu. Demande-lui de te donner un cœur régénéré. Demande-lui de labourer lui-même ton cœur pour une meilleure transformation. Afin que tu puisses véritablement aimer tes ennemis. Que tu puisses bénir ceux qui te maudissent. Que tu puisses faire du bien à ceux qui te haïssent. Prie, prie ton Dieu. Demande-lui de faire de toi son imitateur et que tu agisses envers ton prochain par amour. Demande-lui de faire toutes choses dans ta vie par amour, même ton travail, à ton lieu de service, même pendant que tu cultives ton champ, que ce soit avec un élan d'amour. Demande à Dieu la force l'humilité pour prendre la bonne résolution maintenant et de faire la paix autour de toi dès la sortie du temple. Prie Dieu, demande-lui de te garder dans l'amour selon 1 Corinthiens 13.
Je louerai ta grâce.
Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole dite en ce lieu. Te disons merci parce que créé à ta ressemblance, tu as voulu que nous soyons aussi des modèles d'amour. Puisse, ô roi de gloire, ta parole pénétrer nos cœurs, nous transformer à l'image des véritables enfants de Dieu nés de nouveau. Merci de faire de nous des exemples d'amour, d'aimer comme Dieu et d'aimer notre prochain. Merci, ô Dieu, de nous avoir conduits ce soir à arracher les pages de nos passés douloureux et de ce que nous allons faire la paix autour de nous. Merci, ô Père, de nous donner de manifester chacun un amour qui ne tarit jamais. Un amour qui ne dépend pas des circonstances. Merci, Yahvé, de nous donner de retourner vers nos domiciles, dans la paix, dans la joie, transportant avec nous l'esprit d'amour que nous allons communiquer aux uns et aux autres. Merci, Père, pour tous les enfants que tu as utilisés ce soir pour nous bénir. Sois adoré, Seigneur, sois exalté, sois magnifié tous les jours dans nos vies et ce pour l'éternité. Au nom de Jésus.